Salut, c'est Julie et bienvenue dans le cinquième épisode de Galerie d'art. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je rappelle tout de même le concept, relier l'art à la société. Aujourd'hui, je vous propose de parler du mannequinat. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art du mannequinat. T'as regardé la Fashion Week un peu la semaine dernière? Il y avait un sac fait avec de l'air, vraiment c'était grave impressionnant.
Ah ouais non, j'étais sur Paris ce week-end mais c'était trop galère, franchement il y avait trop de bouchons, c'était insupportable, trop de monde et tout, enfin sur les trottoirs les fashion quoi.
Ah bah j'imagine bien, hein. Et même ça risque d'être pire au JO cet été. Mais bon, par contre c'est un truc de fou comme la mode et les mannequins changent avec le temps, tu trouves pas?
Ah oui, de fou. Comme disait Aurel San, Hugo Boss habillait les nazis, donc comme quoi le style a son importance, basique.
Mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet par contre, alors laisse-moi te raconter l'histoire de l'art du mannequinat. Établissons déjà les bases. Le mannequinat est une profession de la mode et des cosmétiques qui emploie des personnes possédant un physique avantageux ou correspondant à une marque pour mettre en valeur des vêtements, du maquillage, du parfum ou des accessoires. On pourrait alors se demander si le mannequinat est vraiment un art. Je rappelle que l'art, c'est tout ce qui touche les sens et les émotions du public. Certains vont donc considérer le mannequinat comme une forme d'art, tandis que d'autres vont plutôt le voir davantage comme une prestation professionnelle liée à l'industrie de la mode. Et ils n'ont pas tort, parce que le mannequinat est tout d'abord une profession commerciale utilisée pour présenter des produits d'une manière qui attire l'attention et stimule la vente. Mais comment attirer l'attention et stimuler la vente? Eh bien tout simplement par l'expression créative et artistique. Les mannequins ont une capacité à poser, à défiler et à communiquer des émotions. Ils contribuent à donner vie à la vision du créateur de mode ou à l'objectif d'une campagne publicitaire. Et les vêtements portés sont eux-mêmes une forme d'art. Le corps du mannequin est comme une toile blanche qui donne vie aux vêtements. C'est un moyen d'expression créatif et artistique. Le mannequinat est ainsi une forme d'art qui va au-delà de la simple présentation de produits. Mais commençons par le commencement. Déjà, saviez-vous que le mot mannequin vient du néerlandais? Il signifiait au Moyen-Âge « petit homme » pour faire référence au mannequin piece, avant de devenir synonyme de sosie, puis de top model. Les premiers mannequins remontent à la révolution industrielle. Parce que vers 1870, le shopping se démocratise et devient un loisir agréable, notamment par l'invention du lèche-vitrine. Mais attention, les mannequins présents à cette époque n'étaient pas vivants, mais faits de cire avec des fausses dents, de vrais cheveux et des yeux de verre. Et d'ailleurs, pour préserver l'innocence de ces mannequins de cire, une loi a été promulguée exigeant que les magasins couvrent leurs vitrines avant de changer les vêtements de leurs mannequins. Cependant, ces mannequins de cire avaient des inconvénients. Ils fondaient quand il faisait chaud et ils étaient extrêmement lourds. C'est pourquoi le mannequin en papier mâché a été inventé, pesant 100 livres de moins que ceux en cire. Et on assiste d'ailleurs au même moment à la naissance du mannequin masculin. Laissez-moi maintenant vous raconter une petite histoire, celle d'un duo devenu célèbre. En 1932, le fabricant de poupées Lester Gaba créa un mannequin réaliste qu'il nomma Cynthia. Il l'emmenait à tous ses différents événements et le duo est très vite devenu connu. Cynthia était la mannequin la plus populaire des années 1930. Elle faisait la couverture du magazine Life, recevait des cadeaux de Cartier et de Tiffany's, et fut même invitée au mariage d'Édouard VIII. Cependant, leur relation a pris un tournant tragique lorsque Cynthia est tombée d'une chaise d'un salon de coiffure et s'est éclatée en mille morceaux. Même si cet événement tragique en a fait pleurer plus d'un, cela n'a pas empêché le plastique de devenir rapidement le nouveau matériel pour la fabrication des mannequins, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la fibre de verre dans les années 1960. Par la suite, les avancées technologiques ont introduit des matériaux encore plus légers et résistants. Néanmoins, la question de la durabilité et de l'écologie se pose de plus en plus quant à ces matériaux. Mais qu'en est-il du mannequin vivant dans tout cela? Eh bien, le premier apparaît en 1848. Tout commence lorsque le londonien Charles Frédéric Worth rencontre la clermontoise Marie-Augustine Vernet. Ils se marient et ils commencent à lui confectionner des robes qui sont rapidement réclamées par des clientes. Pour faciliter la fabrication et les essayages de vêtements, Worth a alors commencé à présenter sur sa femme des modèles en mouvement à ses clientes, ce qui en a fait le premier mannequin de l'histoire. Au départ, les mannequins étaient appelés des sosies, car ils devaient ressembler aux clientes et être leur double, afin de faciliter les essayages. après le lancement de son entreprise, Worf lance le concept de collection, qu'il présente avant la saison à laquelle elle est destinée, sur des modèles vivants à travers des défilés prestigieux face à toute la bourgeoisie de l'époque. Au milieu du 19e siècle, les mannequins sont pour la plupart des couturières et des vendeuses qui posent sans souci de séduction pour des photos servant aux dessinateurs des revues de mode. Au début du 20e siècle, le terme entre dans le langage courant. On dit dorénavant aussi « la mannequin ». Durant l'entre-deux-guerres, le mannequinat devient une activité qui est de plus en plus valorisée. Les mannequins sortent de l'anonymat et en 1928, la première école de mannequinat d'Europe ouvre en Angleterre, le Lucy Clayton College. Le mannequinat commence à devenir un terme qui caractérise un métier, le statut se professionnalise et prend de l'ampleur. Par exemple, en 1949, Lisa Fonsagrive est la première mannequin à faire la couverture du magazine Time. Le métier intègre aussi le milieu créatif de la musique et de l'art et peut être source d'inspiration, comme le montre la relation qu'avaient Andy Warhol et sa muse, la mannequin Edie Sedgwick. Au fur et à mesure, le et la mannequin deviennent une sorte d'archétype esthétique, un idéal de beauté. On peut citer Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Kate Maud. Et il est important de dire que les mannequins n'étaient pas seulement de type caucasien. À partir des années 1970, on assiste à une démocratisation du métier et on voit apparaître des mannequins d'origines diverses. Cependant, on voit aussi émerger l'idée qu'être mannequin signifie avoir certaines caractéristiques corporelles, installant les prémices de l'idéal de beauté biaisé de notre société d'aujourd'hui. Au fil des décennies, l'art du mannequinat a évolué pour refléter les tendances de la mode, les normes de beauté changeantes et les avancées technologiques. Les mannequins sont devenus des acteurs clés de l'industrie de la mode, contribuant à la création d'une esthétique visuelle et à l'évolution des canons de beauté. Une dernière chose reste à mentionner. Le mannequinat joue aussi un rôle très important en tant qu'outil de reflet de la société, en mettant en lumière des problèmes et des thèmes sociaux importants. Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire du mannequinat, passons à la base même de cette émission, relier l'art à la société. Et pour l'art du mannequinat, j'ai choisi de vous parler d'une émission purement française, Miss France. Alors oui, je sais, Miss France n'est pas directement liée au mannequinat. Mais l'objectif du concours est tout de même de défiler avec des vêtements pour être jugée, même si ce n'est pas à but lucratif. Ici, ce n'est pas forcément le vêtement qui compte, mais l'apparence physique. Et cela pose de plus en plus problème aujourd'hui. Je rappelle tout de même les généralités. Miss France est un concours de beauté destiné à des Françaises âgées de plus de 18 ans et mesurant au minimum 1m70, donnant droit à sa gagnante au titre annuel du même nom. Créée en 1920 par Maurice de Waleff sous le titre de « La plus belle femme de France », ce concours est diffusé en décembre et en direct à la télévision depuis 1987 et a entre-temps inspiré la création des concours de Miss Small Beauty, Miss Europe, Mister France ou encore Mister National. Le concours Miss France est le plus ancien concours de beauté du monde encore en cours. Chaque candidate représente une région de la France, 30 au total, et participe à différentes étapes de la compétition, notamment des entretiens, des défilés en maillot de bain et en robe de soirée, ainsi que des questions de culture générale. L'objectif est de choisir une ambassadrice de la beauté et de l'élégance qui représentera la France pendant un an. Les critères de sélection vont au-delà de l'apparence physique. L'intelligence, la personnalité, l'éloquence et l'engagement social sont des points tout autant importants. Aujourd'hui, l'émission Miss France se voit toujours plus stigmatisée et critiquée. Et pourtant, elle continue de battre des records d'audience chaque année. Alors comment expliquer ce phénomène à l'heure où ce concours est de plus en plus considéré comme archaïque et sexiste par les associations féministes et une bonne partie du public ? Tout d'abord, on peut dire que c'est une émission qui rassemble. C'est un concours historique ancré dans la culture française, un point de repère dans l'année. On peut facilement en discuter autour de la machine à café de son travail. Ensuite, beaucoup regardent l'émission dans le but de critiquer et de juger. C'est ce qu'on appelle le hate-watching, c'est-à-dire regarder une émission pour dénigrer, notamment sur les réseaux sociaux. Et le concours Miss France n'y échappe pas, regroupant une large partie du public. Les critiques fusent de tous les côtés, et particulièrement sur Twitter. Certains vont même jusqu'à créer des dossiers avant l'émission pour noter tous les jugements et commentaires qu'ils auront durant l'émission, qu'ils publient ensuite sur les réseaux pour que d'autres puissent faire de même. Enfin, on peut dire que ce sont les Miss elles-mêmes qui font partie du succès de l'émission. On le sait tous, la notoriété attire, et voir une célébrité à la télévision fait toujours plaisir. Bon, même si l'émission Miss France a encore son petit succès, elle croule tout de même sous les critiques, comme dit précédemment. La plupart des critiques sont directement liées aux critères esthétiques de l'émission. Miss France a perpétué pendant longtemps une vision rétrograde de la femme, la cantonnant à une représentation exclusivement axée sur sa beauté physique. Cela relève des normes de beauté qui ont toujours été présentes dans notre société. Et en général, ce sont les mêmes normes que celles des mannequins. Il y a longtemps, c'était par exemple la peau pâle, les formes voluptueuses et les courbes qui étaient valorisées. Mais aujourd'hui, c'est la minceur extrême qui est mise en avant. Même si la représentation inclusive dans les médias ainsi que la célébration de la beauté sous toutes ses formes, tailles et couleurs commencent à prendre le dessus. En revanche, on ne peut pas nier que l'élection de Miss France est dominée par une forte tendance aux stéréotypes. Souvent, l'accent est mis sur l'apparence physique au détriment des qualités intérieures, créant ainsi une image restreinte de la beauté. On va généralement d'abord juger le physique de la Miss, puis, s'il nous plaît, s'intéresser au reste. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'étais plus jeune, je pensais que Miss France devait avoir les cheveux longs, des formes corporelles et des yeux bleus. Bien sûr, ce n'est plus mon avis aujourd'hui, et heureusement, mais ce rattachement à ces stéréotypes est malheureusement toujours le cas pour beaucoup. Et c'est cette quête incessante de se conformer aux normes de beauté qui fait que l'on se retrouve face à des idéaux tout simplement inatteignables. Ces standards imposés ont un impact direct sur la diversité des Miss, laissant peu de place à la singularité de chaque femme. Si une femme veut faire Miss France, elle va se retrouver face à plusieurs critères de sélection, comme la taille, la situation maritale ou encore les traces sur son corps, diminuant ainsi ses chances de pouvoir juste participer et d'être entièrement unique. On nous présente une Miss comme étant l'ambassadrice de la femme française, mais selon quels critères légitimes finalement ? Ces critères ne reflètent qu'une facette limitée de la diversité féminine. Bien qu'il y ait des évolutions sur ce sujet-là, elles ont été très tardives et beaucoup de choses doivent encore être changées. Et la toute nouvelle Miss France 2024 pourrait bien incarner ce changement. Nombreux sont ceux qui ont critiqué Eve Gilles, alias Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France 2024 le 16 décembre 2023. Pourquoi ? Tout simplement à cause de ses cheveux courts et de son corps jugé trop mince. Elle était favorite du jury, mais pas des votes du public. Son élection a suscité une retombée violente sur les réseaux sociaux. Entre des accusations de triche sur le vote du jury et des critiques liées à son physique, entamées dès la publication de son portrait officiel en maillot de bain, tout cela a été très lourd à porter pour elle. Sa coupe de cheveux et son corps sont notamment devenus des mèmes sur les réseaux sociaux. C'est certes une coupe qu'on a très rarement vue durant le concours depuis ses débuts et qui est même très rare en général dans les concours de beauté, mais ce n'est en aucun cas une raison pour s'en moquer. Quant à son corps, il modifie la norme d'un corps formé et sexy et respecte enfin la diversité, mais cela déplaît à certains. Mais il n'y a pas que son corps et ses cheveux qui sont critiqués sur les réseaux sociaux. Le fait qu'elle ait gagné contre Miss Guyane lors de la finale du concours en a aussi déçu plus d'un. Miss Guyane était la préférée du public et correspondait aux normes de beauté qu'on a l'habitude de voir à Miss France. C'est pourquoi sous toutes les publications de Eve Gilles sur les réseaux sociaux, on peut voir des commentaires du genre « Bravo à notre Miss Guyane !»« Miss Guyane est où ? On veut toujours Miss Guyane !» Je ne crois pas avoir croisé une seule fois le chemin d'un post sur Miss France 2024 sans ce genre de commentaires. Tout cela pour dire que malgré ses critiques, Eve Gilles reste forte et s'assume complètement. Elle rappelle qu'elle n'a pas choisi son corps, mais qu'elle a choisi le naturel. Si elle avait voulu plus de forme, elle serait peut-être passée par la case chirurgie esthétique, mais elle veut montrer qu'elle s'assume. Et pour vous dire l'ampleur de la chose, Emmanuel Macron a même réagi à ses critiques en disant que, honnêtement, c'est fou de penser que des gens puissent avoir des discours de haine parce qu'on a des cheveux courts. On est quand même des fadas. Ainsi, on peut dire que l'élection de Miss France 2024 marque une réelle évolution pour l'émission. Elle incarne diversité, antipode et renouvellement. Peut-être que cela soulèvera d'autres questions à l'intérieur du comité Miss France pour l'avenir de l'émission. Et qui sait, peut-être que nous aurons une Miss France chauve l'année prochaine. Donnons maintenant la parole au public, et j'ai une petite surprise pour vous. Mais avant, laissez-moi vous présenter l'émission Miss Mal Beauty France. Elle est nettement moins connue que Miss France, mais elle s'adresse aux femmes âgées entre 18 et 30 ans, mesurant moins d'1m70. La présidente du comité, Solène Bertin, nous dit que le but principal de Miss Mal Beauty est de prouver que les femmes dites de petite taille peuvent être tout aussi élégantes malgré ce que nous montrent les codes de la mode. En effet, les critères de sélection sont nettement moins sélectifs que Miss France. Ils reposent sur le sourire, l'allure, la tenue, la maîtrise de soi, l'élocution, la personnalité, la motivation, la créativité, mais aussi l'originalité, en plus du fait que les piercings, les tatouages, les mariés et les mamans sont autorisés à participer. Le concours Miss Mal Beauty représente en quelque sorte la femme d'aujourd'hui et brise les codes. Chaque femme peut s'affirmer, choisir son avenir et changer le monde. Alors je vous laisse écouter le témoignage de Judicaëlle Or, Miss Réunion et deuxième dauphine de Miss Mal Beauty France 2024, élue le 27 janvier 2024 à Faverolles-sur-Cher.
Bonjour, je m'appelle Judicaëlle Or, j'ai 27 ans, et je suis Miss Mode Beauty Réunion 2023. Et depuis peu, je suis deuxième dauphine Miss Mode Beauty France 2024. Alors, avant de faire l'élection Miss Mode Beauty France, j'ai fait une autre élection avant où je n'ai pas eu de titre. Mais j'ai voulu retenter une expérience et j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, par hasard, Miss Mode Beauty. Et du coup, j'ai choisi ce comité parce que les valeurs qui prônent, que ce soit l'égalité, la solidarité, la fraternité et le fait d'avoir un critère de beauté où on est autre que Miss France, donc moins de 1m70, m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu choisir Miss Mode Beauty France. Du coup, la sélection, on envoie un message, on a une cotisation à payer. Après, ils nous disent qu'on est officiellement candidate. La préparation, du coup, j'ai une super déléguée qui m'a appris à défiler, à voir parler devant un grand public parce qu'il y a près de 200 personnes et où on parle de notre vie, de faire un discours, etc. Et on a aussi une semaine de préparation juste avant l'élection où pendant cette semaine, on a quelques ateliers, donc atelier d'éloquence, atelier de coiffure, atelier de maquillage, atelier de démarche, où on apprend aussi les chorés pour l'élection qui arrive dans le week-end. Avant l'élection, on a une soirée de présélection où c'est là que on va dire que les cartes se jouent parce que c'est là que le jury va choisir les 8 premières, enfin les 8 qualifiés qui vont pouvoir être dauphines voire miss lors de l'élection. Et le jour J, c'est quand même assez détente. Mais voilà, il y a toujours le stress qui vient. Et le jour J, il y a l'élection. Du coup, on fait des chorés, on doit défiler. Le jury est devant nous. Et on a le public qui nous donne vraiment de la force. Et c'est ça qui est incroyable dans les concours de Miss. Parce que tout le monde crie pour tout le monde. Que ce soit des gens qui n'ont personne qui viennent. Que ce soit d'autres personnes. Voilà, tout le monde est ensemble. Donc ça, c'est bien. Et par rapport à l'engagement social, il faut savoir que pour Miss Mode Beauty, on doit avoir une cause. C'est vraiment ce qui est vraiment important pour ce comité. Donc moi, ma cause, c'est l'harcèlement scolaire. Du coup, en étant professeur des écoles, c'est vraiment une cause qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est pour ça que dans ce comité, j'essaie vraiment de montrer que l'harcèlement scolaire est très présent et j'aimerais beaucoup aider, grâce à mon métier, mais aussi grâce aux Miss, les personnes qui sont atteintes d'harcèlement scolaire ou avant qu'il y ait cet harcèlement scolaire, prévenir pour dire que c'est quelque chose de grave et faire comprendre aux enfants que l'harcèlement scolaire, c'est compliqué. Et du coup, mes projets pour l'avenir, donc j'ai été élue il y a 2 semaines maintenant, deuxième dauphine France. Donc pendant 1 an, j'ai ce titre. Donc je dois montrer une belle image, montrer ma cause. Donc j'ai encore pendant 1 an des choses à faire. Et pourquoi pas plus tard, sachant que j'ai 27 ans, faire un dernier concours de Miss. Et pour l'instant, je ne sais pas encore. Parce que les concours de Miss se finissent vers 30 ans. Donc je ne sais pas encore lequel. Donc voilà.
Et c'est ainsi que le 5e épisode de Galerie d'Art se termine. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour parler des arts numériques. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute.